Le journal vous est présenté par Olivier Bénis. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à toutes et à tous. Les Alpes-Maritimes attendent une décision ce soir ou demain matin sur leur sort. Le département particulièrement touché par l'épidémie de Covid-19 devrait passer à des restrictions spécifiques pour inverser la tendance. Des préoccupations qui ont un peu fondu aujourd'hui avec ce week-end sous le soleil. Beaucoup de monde dans les rues et les parcs, notamment à Paris. Et pour la plupart, un besoin de souffler un peu au milieu de cette période anxiogène. On reviendra aussi sur cette histoire spectaculaire aux États-Unis, près de Denver, où des habitants ont vu tomber dans leur jardin ou dans la rue des morceaux d'avion. Plus de peur que de mal, vous l'entendrez. Un nouveau défi pour Philippe Croizon, après avoir relié les quatre continents à la nage, l'athlète amputé des quatre membres pourrait bien aller dans l'espace. Et tout est parti d'une simple blague adressée à Elon Musk. On fera également le point sur ce week-end sportif avec Jean-Pierre Blimeau. Et à 19h30, on retrouvera les petits bateaux de Noël Bréham avec cette question qui parlera à tous ceux qui préparent la matinale de France Inter.
Bonjour, je m'appelle Anatole, j'ai 16 ans et j'aimerais connaître la différence entre l'Arabica et le Robusta. Merci,
Réponse dans un peu moins de 30 minutes. Enfin, nous rendrons aussi hommage dans ce journal à Isabelle Dordain, décédée aujourd'hui. Un nom qui parlera aux auditeurs les plus fidèles de France Inter puisqu'elle a mené l'émission Le Pont des Artistes sur notre antenne de 1988 à 2013.
France Inter.
Les habitants de Nice attendent la décision du gouvernement sur les nouvelles restrictions anti-Covid qui devraient s'y appliquer très prochainement. Décision qui tombera ce soir ou demain matin. Olivier Véran évoquait plusieurs pistes hier, dont un reconfinement partiel les week-ends. Les élus locaux sont inquiets, évidemment, face à l'explosion du nombre de cas, mais un peu divisés encore sur les bonnes mesures à prendre. Jean Leonetti, par exemple, maire LR d'Antibes, regrette des décisions à nouveau monopolisées par le sommet de l'État.
On a bien entendu des propositions qui étaient faites par le préfet et au fond la quasi-validation tacite du ministre. Il y a eu une concertation, mais ça ressemblait plus à une information bienveillante qu'à une concertation et un échange et un dialogue. Le confinement, c'est quand même une vieille méthode qu'on utilise par défaut parce qu'on n'a pas une vaccination qui s'accélère. Donc si on avait en même temps une vaccination massive sur les zones les plus exposées comme les Alpes-Maritimes et en particulier la zone niçoise, à ce moment-là, on aurait une espérance. Or, le ministre annonce 3500 doses de plus pour 1 million d'habitants. Ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu, bien sûr. Et donc, on va avoir une mesure qui, à mes yeux, est peu efficace sur le plan sanitaire et très pénalisante sur le plan de la vie sociale et familiale.
Jean Leonetti, contacté par Simon Le Baron. Urgence donc dans les Alpes-Maritimes. Une urgence qui n'a pas dissuadé beaucoup de Français d'aller profiter du redoux aujourd'hui. La météo est particulièrement clémente pour une journée d'hiver. Et après un an de crainte autour du Covid, vous êtes nombreux à avoir voulu profiter de cette journée dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
Vous avez dialogué avec des promeneurs parisiens aujourd'hui.
Oui, qui étaient nombreux sur l'esplanade des Invalides. Et puis, il y avait des contrôles de police, mais beaucoup de pédagogie, surtout auprès des jeunes qui sont venus nombreux profiter du soleil entre amis, une partie de pétanque, un pique-nique. Et le masque est vite baissé. Evan, 25 ans, a été rappelé à l'ordre.
On essaie de faire attention, là. C'est vrai que le policier il m'a dit de remettre le masque pour une fois. Ils ont été cool.
Le jeune homme est conscient de la situation fragile, très fragile aussi à Paris, mais difficile de garder la même rigueur après un an d'effort.
On est un peu sans nouvelles du gouvernement, donc en ce moment, en tout cas, on est dans l'attente de savoir ce qui va se passer demain.
Pas de sanctions cette fois pour le jeune homme, mais un rappel à l'ordre, un rappel des gestes barrières que comprend aussi Emma, 20 ans.
Je pense que ça leur fait pas plaisir non plus de passer leur dimanche à sanctionner, à réprimander des gens qui veulent juste un petit peu profiter. Surtout que pour la plupart des gens qui sont ici, on respecte relativement les règles de sécurité. La plupart des gens ici ont leur masque, donc au final, ça doit pas être agréable pour eux non plus de passer leur journée là.
C'était plutôt cordial, quoi. Là.
C'est ça, tout à fait.
Une légèreté vite oubliée, passé 18h, heure du couvre-feu, l'esplanade des Invalides s'est rapidement vidée et les forces de l'ordre ont dressé plusieurs points de contrôle. Cette fois, il fallait bien avoir son attestation.
Marion Ferrer avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques, insouciance et pédagogie aussi. De l'autre côté de la frontière avec l'Italie, le pays a été particulièrement touché par l'épidémie de Covid depuis un an. Et là aussi, les spécialistes ne cachent pas leur inquiétude face à la montée des variants d'abord, comme chez nous, et comme chez nous aussi, face à la météo clémente qui a inciter les Italiens à sortir nombreux. Bonsoir Olivier Tosseri.
Bonsoir.
Face à ce relâchement, donc, les autorités italiennes appellent à la prudence et à la responsabilité.
Exactement, les médias italiens, comme les virologues qui stigmatisent un certain relâchement de la population, les images des terrasses de cafés et de restaurants bondés, ainsi que les foules massées dans les rues commerçantes des centres-villes tournent en boucle, profitant du beau temps et des mesures de confinement moins strictes que chez ses voisins européens. Les Italiens veulent oublier quelques instants la pandémie. Elle continue de frapper avec environ 300 victimes quotidiennement, mais le nombre de contagions est stable. Plus pour longtemps, s'alarment les virologues qui conseillent le gouvernement. Ils craignent une troisième vague de Covid-19 favorisée par les différents variants et le retard dans la campagne de vaccination. Ils réclament un nouveau confinement aux grandes dames de la population et des acteurs d'une économie à genoux. Le nouveau président du Conseil, Mario Draghi, devra trancher, mais a déjà fait savoir qu'il coordonnerait mieux que son prédécesseur les éventuelles annonces de durcissement des mesures anti-Covid.
Merci beaucoup Olivier, et Tosserie en direct donc de Rome en Italie. À Marseille, une avenue des quartiers nord officiellement rebaptisée Ibrahim Ali, une plaque a été inaugurée aujourd'hui à l'endroit même où 21 ans plus tôt, ce jeune homme de 17 ans a été tué d'une balle dans le dos par un colleur d'affiche du Front National. Pour le maire Benoît Payan, cet hommage était un devoir pour la ville.
Le 21 février 1995, Ibrahim Ali était assassiné parce que noir. Il est mort du racisme, contre ses idées immondes, contre ses actes. Nous devons à chaque fois les dénoncer, ne jamais les tolérer et toujours les combattre. Défendre fort notre vision, nos valeurs, celles qui ont fondé notre ville, la tolérance, le partage. Ce 21 février 2021 marque la fin d'un silence. Marseille renoue avec son histoire en écrivant en lettres capitales le nom d'Ibrahim Ali sur l'avenue qui traverse une partie des quartiers nord. Il fait désormais partie de notre identité. Renommer cette avenue était une responsabilité morale et un devoir politique. Nous n'avons fait que notre devoir. Rien de plus.
Le maire de Marseille, Benoît Payan. Une polémique en chasse une autre au gouvernement après les islamo-gauchistes dans les universités dénoncés par Frédéric Vidal. Gérald Darmanin, lui, semble s'inquiéter d'un végétaro-gauchisme à Lyon. La mairie écologiste a décidé de mettre en place des menus uniques sans viande dans les cantines scolaires. Le ministre de l'Intérieur dénonce sur Twitter une idéologie scandaleuse et une politique moraliste et élitiste. Le maire Europe Écologie et les Verts, Grégory Doucet, s'étonne lui de cette polémique puisque ce menu unique est temporaire pour fluidifier le service en période de Covid, que le menu reste équilibré avec notamment des œufs et du poisson et que la même décision avait été prise au printemps dernier par un certain Gérard Collomb, sans que personne ne trouve rien à y redire.
France Inter, Olivier Bénis.
Ils ont sans doute eu la peur de leur vie. Les passagers américains d'un avion faisant la liaison entre Denver et Hawaï ont vu un réacteur de leur appareil prendre feu en plein vol. Ils sont finalement revenus sans encombre à leur point de départ, mais en laissant derrière eux de nombreux débris qui ont atterri chez des habitants de la ville. Loïc Loury nous raconte cette histoire.
Un peu plus de 13 heures dans cette banlieue résidentielle de Denver, attrape le chien, on y va, dit cette femme dans une vidéo postée sur Twitter. Et pour cause, des débris alors non identifiés tombent du ciel. Ils proviennent du vol United Airlines 328 à destination de Hawaï, décollage à 12h49, et un grand boom entendu par les 231 passagers peu de temps après, le genre de bruit, dit l'un d'eux, que vous ne voulez pas entendre à bord d'un avion. Le moteur droit en effet vient de s'enflammer, le pilote lance alors un appel à l'aide. Panne de réacteur, dit-il, nous devons faire demi-tour, ajoutant le fameux Mayday, un signal de grande détresse. Mais la manœuvre se déroule parfaitement. L'appareil s'est posé à Denver sans encombre. La plupart des passagers a même déjà repris un vol pour Honolulu. À l'arrivée, aucun blessé en l'air comme au sol. Un habitant de Broomfield a juste été très surpris de retrouver un anneau de métal de 2 mètres de diamètre planté dans son jardin. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le président algérien dissout l'Assemblée nationale, ouvrant la voie à des législatives anticipées. Abdelmadjid Tebboune a signé le décret présidentiel ce dimanche. Une décision attendue, elle était annoncée jeudi dernier. Il avait accompagné cette annonce d'une grâce présidentielle pour une soixantaine de détenus d'opinion, dont 35 ont été effectivement libérés depuis. Peut-être bientôt un nouvel exploit pour Philippe Croizon, cet homme de 52 ans, amputé des 4 membres qui avaient déjà relié 4 continents à la nage, eh bien il pourrait aller prochainement dans l'espace. En tout cas, il a réussi à convaincre le milliardaire américain Elon Musk, patron de SpaceX, de lui donner sa chance. Philippe Croizon.
C'était parti d'une boutade. J'ai dit à mes followers sur Twitter, je dis voilà, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, j'enverrai un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. Et je fais 54 000 followers en 2 heures, donc pris à mon propre piège. J'envoie un tweet à Elon Musk en lui disant, écoutez, voilà, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras, pas de jambes, envoyez-moi dans l'espace. Et contre toute attente, il me répond en me disant, Philippe, dès que la navette Starship est prête pour accueillir une personne handicapée, on vous envoie dans l'espace. Et moi qui ne dégonfle jamais, je lui dis, bah écoutez, mes messages privés sont ouverts et depuis on échange par mail. Il m'a mis en contact avec Jared, le pilote de la navette, et j'ai rendez-vous avec eux au mois d'octobre à Cap Canaveral. Alors en octobre, je vais pour le premier décollage de la première fusée touristique avec les premiers touristes qui va décoller donc en octobre. Et je vais au décollage et à l'amérissage. Et ensuite, on discute comment est-ce qu'on organise le vol. Après, faut être lucide. Hein, il y a beaucoup de choses avant. Enfin, c'est la médecine, les entraînements et ainsi de suite. Mais avant de traverser la Manche, je ne savais pas nager.
Philippe Croizon au micro d'Edouard Marguier de France Info. Et puis je vous l'avais promis dans les titres pour finir ce point sur l'actualité. Un modeste hommage à une voix que les auditeurs de France Inter pouvaient entendre tous les samedis soirs de 1988 à 2013.
Merci et bonsoir. Ce soir, en public au studio Charles Trenet, nous vous proposerons une soirée spéciale autour d'un artiste qui a fait ses débuts sur France Inter il y a un peu plus de 20 ans. Son dernier album, paru en 2012, s'appelle « Vers les lueurs ». Titre prémonitoire puisque tout au long de cette année 2012, les projecteurs ont été braqués sur lui. Pour partager son succès, le pont braque les projecteurs encore une fois sur lui. Et c'est Dominica qui est sur le pont des artistes.
Le pont des artistes, donc, mené par Isabelle Dordain, qui vient de nous quitter à l'âge de 62 ans. Elle a lancé de nombreux chanteurs français, dont un certain Vincent Delerme, qui a même été son assistant avant d'être chanteur.
Elle, c'était vraiment un personnage, quoi. Elle fumait un peu clope sur clope dans son bureau. Elle pouvait être vraiment assez dure aussi avec des gens. Enfin, en tout cas, elle faisait aucune concession, elle invitait pas tellement les gens en fonction des partenariats inter ou pas, enfin elle en faisait un peu casser la tête quoi. Et puis elle aimait beaucoup surtout faire se rencontrer des gens, ça c'est des gros souvenirs que j'ai eu comme stagiaire dans son émission, et puis ensuite après comme chanteur aussi, mais elle voulait toujours ce truc-là, que des gens viennent, discutent, ça s'appelait le pont des artistes, et c'était, je sais qu'elle utilisait toujours cette idée de passerelle entre les genres musicaux, entre le jazz, la variété, enfin tout, quoi, elle essayait de tout mélanger, et je crois qu'il y a beaucoup d'artistes, de musiciens qui se sont rencontrés à travers son émission, et c'est sûr que c'était des années précieuses.
Vincent Delerme au micro de Stéphane Capron, évidemment toutes les équipes de France Inter saluent à nouveau la mémoire de cette grande voix qui vient de s'éteindre, celle d'Isabelle Dordain. On passe au sport avec vous, Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on commence avec du tennis, et c'est décidément sa terre de prédilection. Novak Djokovic a encore remporté l'Open d'Australie de tennis.
Et de belle manière, hein, car le Serbe a balayé le Russe Daniil Medvedev, qui restait pourtant sur une impressionnante série de 20 victoires sur le circuit ATP. 3 manches en un peu moins de 2 heures pour le numéro 1 mondial. C'est le 9e titre de Djokovic à Melbourne. Personne n'a fait aussi bien à l'Open d'Australie, mais aussi son 18e titre en Grand Chelem. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir Jean-Pierre.
Novak Djokovic se rapproche de plus en plus du record des titres dans les tournois majeur.
C'est vrai, il est là, plus très loin, juste derrière Rafael Nadal et Roger Federer à 2 longueurs. 18 titres en Grand Chelem pour Novak Djokovic contre 20 pour Federer et Nadal, qui co-détiennent le record absolu du nombre de titres majeurs. Le Serbe n'a jamais été aussi près de rejoindre ses deux glorieux rivaux. Il reste 3 Grand Chelem à disputer cette saison et à chaque fois, il sera là, Djokovic. Djokovic a le tennis pour briller sur toutes les surfaces et notamment à Roland-Garros sur terre battue. Mais là, ça va se compliquer très sérieusement avec la présence de l'intouchable Rafael Nadal. Et l'Espagnol sera cette année d'autant plus motivé que s'il remporte un 14e trophée Porte d'Auteuil, il dépassera Federer et s'emparera seul du record de titres majeurs. Alors évidemment, Djokovic ne part pas battu d'avance, mais raisonnablement, il sait qu'il aura plus de chances de s'imposer à Wimbledon et à l'US Open qu'à Roland-Garros. Novak Djokovic, en mal de reconnaissance, mettra tout en œuvre pour s'adjuger les titres restants. Ce sera cette année ou plus tard, mais peu importe, il sait qu'il est armé pour détrôner un jour ou l'autre Nadal et Federer et détenir ce record qui déterminera un jour le plus grand joueur de tous les temps.
Alors en attendant Fabrice, pour Novak Djokovic, cette année il y a un objectif vraiment exceptionnel, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo.
C'est vrai, et s'il y parvient, Novak Djokovic pourra se vanter d'avoir glané tous les titres existants dans le monde du tennis, et ça sans exception. Ce que Nadal et Federer, en revanche, ne peuvent pas dire. Il leur manque par exemple des titres en Masters 1000. Djokovic, lui, les a tous gagnés au moins une fois. Et puis Nadal n'a jamais encore gagné le Masters, même s'il peut encore l'envisager. Quant à Federer, il n'a jamais été champion olympique en simple, et à 40 ans, pas sûr qu'il y arrive cette année à Tokyo, et ce sera cette année ou jamais pour lui, parce qu'en 2024, il sera à la retraite.
Merci Fabrice Abgral. Prochain grand chelem, c'est Roland Garros, tout simplement, fin mai et début juin.
On passe aux championnats du monde de biathlon qui se sont achevés en Slovénie avec une médaille française.
Celle de Quentin Fillon-Maillet dans la Mass Start, troisième d'une ultime épreuve dominée par Sturla Holm Lagreide. Retenez bien son nom, à 24 ans, le Norvégien se positionne d'ailleurs comme la future star de la discipline. Alors, quatre médailles d'or pour lui en Slovénie. Fillon-Maillet, lui, s'est contenté de la médaille de bronze, mais il était jusque-là bredouille. Il a donc pu se consoler avec ce premier podium, lui qui ambitionnait de revenir de Slovénie avec au moins un succès mondial.
Je ne me suis pas mis d'ultimatum à aller chercher un résultat aujourd'hui, mais voilà, j'avais quand même envie de finir à le sourire. C'est vrai qu'une grande partie de l'équipe a été médaillée. J'avais vraiment envie de bien finir. Alors, le début de course, ça ne s'est pas exactement passé comme je voulais. Sportivement, tous ces mondiaux, ils ont été bons, hein, mis à part quelques heures à en coucher. Je suis vraiment content de ma forme physique que j'attendais depuis le début de saison. Il y a eu beaucoup d'émotions. C'est ce que j'aime aussi dans le biathlon. Hein. Les bonnes courses nous procurent beaucoup d'émotions positives et les mauvaises courses sont dures à encaisser. Mais c'est ce qui fait que la réussite est encore plus belle.
Quentin Fillon-Maillet, médaille de bronze aujourd'hui sur la Mass Start masculine chez les filles. Eh bien, ça se déroulait aussi ce matin, mais les Françaises n'ont pas obtenu de médaille. Alors au total, il y a 7 médailles pour l'équipe de France dans ces championnats du monde de biathlon en Slovénie. Jérôme Val, c'est un bilan tout de même honorable.
Oui, d'un point de vue comptable, hein, si on fait le bilan un peu à froid, bien ce sont des mondiaux plutôt réussis pour le camp tricolore, vous l'avez dit. 7 médailles, dont 2 en or, bilan quasi équivalent à celui de l'an passé en Italie avec ses 8 médailles. C'est même un très bon cru, nous a confié tout à l'heure l'un des entraîneurs des Bleus, Vincent Vitoz, notamment pour les Françaises qui étaient rentrées à vide il y a un an et qui ramènent là 2 médailles individuelles et 1 en or en relais mixte simple. Chez les hommes, 4 des 5 Français engagés en Slovénie sont médaillés. Alors évidemment, on est loin de la moisson de la Norvège et ses 7 médailles d'or, mais la France n'a pas à rougir de ses mondiaux. Seulement, Jean-Pierre, ce week-end a illustré les lacunes des Bleus avec un tir trop souvent défaillant et qui a coûté cher à certains. Puis ces 2 semaines ont aussi montré quelques dissensions dans les groupes, notamment chez les Françaises. Bref, il reste 1 an maintenant à l'encadrement tricolore pour trouver les clés de la réussite avant de rejoindre Pékin et les Jeux Olympiques d'hiver.
Merci Jérôme Val, direct de Slovénie, donc pour France Inter sur ces championnats du monde de biathlon.
La Ligue 1 de football maintenant avec un choc ce soir au stade Louis II. Monaco accueille le PSG.
Un Paris Saint-Germain qui, pour l'instant, n'est toujours pas leader de cette Ligue 1. C'est Lille qui est en tête, puisqu'après sa victoire 3-1 à Lorient il y a quelques minutes, les Lillois sont assurés de tourner ce week-end à la première place du classement. Notez aussi aujourd'hui que Lens monte à la 5e place après une victoire 2-1 contre Dijon. Metz, Nîmes, Montpellier se sont aussi imposés alors que Strasbourg et Angers se sont neutralisés.
Et puis côté football, on parle aussi de cette rivalité naissante entre 2 jeunes pépites.
Le premier joueur, on le connaît bien, c'est Kylian Mbappé, un champion du monde à moins de 20 ans en 2018. Le second fait parler de lui depuis l'an dernier. Il le confirme cette année avec encore un but exceptionnel hier en championnat d'Allemagne. C'est le jeune Norvégien Erling Haaland. Nouvelle terreur des terrains de foot et de l'équipe de Dortmund, Alexandre Vaux.
Oui, lors du derby gagné par son équipe de Dortmund, 4-0 à Schalke hier, Erling Haaland a marqué un doublé dont un bijou juste avant la mi-temps, une reprise acrobatique somptueuse digne des gestes les plus fous du buteur suédois Zlatan Ibrahimovic.
Il a vu Haaland, la reprise, Haaland ! Le festival du Norvégien !
Auteur déjà d'un doublé et d'une passe décisive mercredi contre Séville en Ligue des Champions, l'attaquant norvégien de 20 ans affole les compteurs avec, tenez-vous bien, 27 buts marqués en 25 matchs seulement cette saison, toutes compétitions confondues, soit plus d'un but par match. C'est mieux que Kylian Mbappé, de 2 ans son aîné, auquel Haaland a fait référence en disant avoir été motivé par le triplé réussi mardi par l'attaquant du PSG. L'histoire des sports s'est écrite au travers des rivalités entre champions. À voir si le champion du monde français répondra ce soir face à Monaco au colosse norvégien.
Merci Alexandre Vaux. Et puis on termine par cet anniversaire. Le journal L'Équipe fête ses 75 ans. Nous sommes en 46. C'est la création de L'Équipe après l'arrêt du journal L'Automobile qui n'avait pas survécu à la guerre. Et bien pour célébrer ses 75 ans, L'Équipe produira cette semaine chaque jour une historique qui a marqué l'histoire du journal.
Et bien un très joyeux anniversaire à eux et un très grand merci à vous Jean-Pierre Blimont. On termine cette page sport avec le grand format consacré au 15 de France de rugby. Une équipe déjà bien malmenée par l'épidémie de Covid-19 avec 9 cas positif dont plusieurs joueurs forfaits pour affronter l'Écosse pour le troisième match du tournoi des Six Nations dimanche prochain. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle pour les joueurs français. Ils peuvent compter sur le soutien des supporters. Les Bleus du rugby plaisent à nouveau si l'on en croit les records d'audience récents. C'est un reportage de Fanny Lechevestrier.
7,2 millions de téléspectateurs pour Irlande-France dans le tournoi, cela n'était plus arrivé depuis 2014. Plus de doute, le 15 de France séduit à nouveau et dans les parcs comme ici à Bagatelle à Paris, le rugby suscite envie et enthousiasme.
Ah oui, ça fait clairement envie.
On m'aurait dit ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était pas terrible. Puis là,
Comment ça nous refaire palpiter? C'est que du plaisir de les voir jouer comme ça.
Ouais, ça fait un renouveau on va dire, on laisse la place aux jeunes.
Un peu de rafraîchissement, ça fait du bien. Dupont.
Si ça gagne, tout le monde va s'identifier avec les deux Français, c'est sûr.
Alors bien sûr, les résultats et le jeu pratiqué y sont pour beaucoup dans ce regain de popularité. Mais pour Abdelatif Benazi, capitaine du 15 de France du Grand Chelem 97, cela tient aussi à l'image que les jeunes bleus dégagent.
C'est vrai que les gens, ils étaient frustrés. Lui, ils se reconnaissent un peu dans les joueurs et puis ils sont plein de talent et puis ils sont humbles, ils sont gentils, proches de leurs supporters. Il n'y a pas un qui est peut-être plus haut que l'autre, excusez-moi du terme, mais c'est vrai qu'il y a cette humilité, une bonne ambiance, un peu universitaire, un peu tout ça, et ça plaît.
Et avec le 15 de France, c'est un collectif qui est mis en avant. En temps de crise comme en ce moment, cela fait mouche, souligne Jean-Philippe Danglade, professeur en marketing du sport à la Kedge Business School.
Les valeurs d'effort collectif, de solidarité, c'est vrai que cette idée très forte en période de crise, de valeurs collectives, de sens de l'effort, d'authenticité, de travail, on communique beaucoup là-dessus. À partir du moment où ça rencontre des résultats, il y a un véritable alignement des planètes, à mon avis.
Le lien est aussi savamment entretenu avec les supporters et le public tenus à l'écart des stades par la pandémie. Ainsi, à chaque match, les premiers mots du sélectionneur Fabien Galthié sont pour les Français.
Dans les circonstances actuelles, on a envie de transmettre la bonne énergie, le bonheur, de rassembler autour d'une cause qui est simplement du sport. Mais dans ces circonstances aujourd'hui, je pense encore une fois de plus aux enfants, bien sûr, à tous les enfants qui ne peuvent pas jouer au rugby. Les amoureux de notre sport qui peuvent pas aller dans les stades, on essaye de donner du sens à ce que nous faisons.
Tout dans la communication est fait pour jouer la proximité, que ce soit avec les noms des clubs formateurs sur les maillots, les petits messages des joueurs sur les réseaux sociaux, la diversité aussi de leur parcours, ajoute Jean-Philippe Danglade.
Avec joueurs français qui jouent en France, et ça aussi, ça va jouer sur l'identification et ses histoires par rapport au foot, passe quelque chose de collectif, de très collectif, et sans forcément mettre en avant un tel ou un tel.
Même la communication cette semaine sur les cas positifs au sein du 15 de France joue la carte de la proximité avec le grand public en donnant au fur et à mesure le nom des personnes touchées. Quant au collectif, en l'absence de joueurs clés, c'est encore lui qui va être mis en avant pour aller défier l'Écosse.
France-Écosse, ce sera dimanche prochain à partir de 16h, évidemment, si la situation sanitaire le permet.
Le journal de 19h. Olivier Bénis.
19h22 sur France Inter, on fait le point sur les temps forts de la semaine qui arrive dans l'actualité. Lundi, ce sera le procès de Farida, cette infirmière quinquagénaire interpellée de manière brutale lors d'une manifestation de soignants à Paris en juin 2020. Les images avaient beaucoup fait réagir dans la population et la classe politique. Elle comparaît demain matin pour outrage et violence sans incapacité temporaire de travail pour avoir jeté des projectiles sur la police. Mardi, on regardera de l'autre côté de l'Atlantique. New York lance une expérience de réouverture des salles de spectacle et des stades avec une jauge très réduite, 10% du public habituel. Mercredi, une soirée sous le signe de la musique. France Musique et France 3 fêtent la 28e édition des Victoires de la Musique Classique. Retransmission en direct depuis l'Auditorium de Lyon à partir de 21h, sans public évidemment, après une année bien sombre pour la culture en général et la musique en particulier, Stéphane Capron.
La soirée des victoires, c'est le moment de célébrer les meilleurs moments de l'année qui vient de s'écouler. Ils n'ont pas été nombreux pour le monde de la musique classique. Il y a bien eu la lueur de l'été et quelques festivals qui ont été maintenus, mais globalement, les musiciens ont souffert, comme tous les artistes, en raison de l'annulation de leurs concerts. Et la situation est préoccupante pour la jeune génération et tous les musiciens qui étudient dans les conservatoires. Ils ont dû travailler à distance avec leurs professeurs. Beaucoup d'étudiants sont confrontés à l'isolement social, à la détresse psychologique, voire à la précarité. On parlera beaucoup coup de la jeunesse au cours de cette soirée. D'ailleurs, la traditionnelle victoire d'honneur qui récompense chaque année un artiste international sera exceptionnellement dédiée à l'ensemble des musiciens et à l'avenir de la musique, et elle sera symboliquement remise aux élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Un hommage sera rendu à Ennio Morricone et au violoniste Ivry Gitlis, et l'Orchestre National de Lyon sera dirigé par la jeune vénézuélienne Glass Marcano, qui a été révélée au concours La Maestra, organisé en 2020 à la Philharmonie de Paris.
On poursuit notre agenda avec jeudi, début d'un sommet européen extraordinaire de 2 jours consacré à la santé et aux questions de défense et de sécurité. Et en plus léger, ce sera aussi la cérémonie de remise des As d'Or, ce prix qui récompense chaque année les meilleurs jeux de société à Cannes, vendredi. En Colombie s'ouvrira le procès d'anciens chefs des FARC pour crimes contre l'humanité. Ils sont accusés d'avoir enlevé 20 000 personnes dans le pays. Et puis sachez-le, pour finir, samedi prochain, ce sera la journée internationale des ours polaires, un animal devenu emblématique des conséquences du réchauffement climatique. On passe à la chronique C'est mon actu, c'est votre moment du journal de 19h, celui qui vous appartient. On vous propose de nous partager votre actualité, celle qui vous tient à cœur, et c'est Sandrine Houdin qui vous tend son micro. Ce soir, on va parler d'une bande de potes à l'origine des hôtels solidaires, une opération où les plus grands hôtels de la capitale offrent leurs viennoiseries non consommées, leurs kits d'hygiène non ouverts ou tout juste entamés, pour pouvoir les redistribuer aux personnes les plus en difficulté, foyers de femmes battues, hébergements d'urgence, accueil de jour pour sans-abri. Malheureusement, là aussi, la Covid a tout changé entre les hôtels désertés, ceux qui ont fermé, plus de quoi remplir la camionnette. Mais pas question pour la petite bande de rester inactive. Ils ont lancé un nouveau projet hébergement solidaire, là encore pour lutter contre le gaspillage. Judy Kael, cofondateur de l'opération, nous explique tout.
On s'est mangé la crise en pleine face, comme tout le monde, et les hôteliers en premier, c'est ce qui a impacté directement nos collectes. Plus de clients, plus de buffets simplement, donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et tout cet espace vide dans ces hôtels, toutes ces chambres qui étaient vacantes, qui étaient désertées des touristes et des hommes d'affaires, on s'est dit que cet espace, on allait en faire quelque chose. On a pensé protection de l'enfance, pourquoi pas aider les familles d'enfants malades, parce qu'on sait bien que c'est une situation difficile. En plus de cette épreuve en fait qu'ils doivent traverser, il y a souvent un des parents qui perd son taf, qui quitte son taf simplement, parce qu'il doit venir de l'autre bout d'on ne sait où, souvent de l'étranger même, pour pouvoir par exemple venir à Necker se faire soigner d'une maladie orpheline, pour aller rencontrer des spécialistes. Il y a toutes ces questions économiques qui viennent se poser, devoir assumer tous les frais médicaux, de les avancer, etc. C'est une vraie croix, en fait, qu'ils doivent traîner.
Ah oui, donc c'est plus la chasse au gaspillage des petits croissants, c'est la chasse au mètre carré, quoi.
Exactement, des chambres vides.
Votre système, votre idée.
Pour le moment, les services des hôpitaux payent plein pot, en fait, les chambres de l'entourage, mais d'un entourage minimum, en fait, de ces jeunes qui doivent être soignés. Et l'idée, c'est que cet argent qui est dépensé pour ces chambres, on pourrait penser une autre façon de le valoriser.
Donc, concrètement, ça marche comment? Je suis une maman, par exemple, j'ai un enfant. Là, on est devant l'hôpital Necker.
Eh bien, tu arrives directement à l'hôpital et, en fait, tu te rends simplement compte que tu ne peux pas payer une chambre plein pot. C'est ça l'histoire. Donc, tu te tournes vers les services sociaux de l'hôpital qui, eux, vont devoir payer une chambre plein pot. Et grâce à un partenariat avec un hôtel qui décidera de donner une chambre dans cette initiative solidaire, l'hôpital fait des économies parce qu'il n'a plus à assumer cette charge. L'hôtelier aussi est gagnant parce qu'en nous faisant ce don en nature, comme ça, il a des avantages fiscaux.
En fait, il y a 3 gagnants, quoi. Tout le monde est gagnant.
Complètement.
Et alors, vous avez besoin de quoi, là, concrètement et en urgence?
On est déjà en contact avec des services sociaux d'hôpitaux et on sait qu'il y a des vrais besoins pour des familles qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Et ce dont on a besoin, c'est des hôteliers qui nous disent que oui, ils embrassent cette idée et qu'ils veulent nous accompagner dans cette initiative.
Pourquoi vous faites ça, hein?
En fait, c'est assez compliqué en ce moment. C'est un peu la merde pour tout le monde. Notre association, le but, c'est de lutter contre le gaspillage. Donc, que ce soit des croissants ou de l'espace, on essaie d'agir là où on peut.
Et sachez que l'initiative est soutenue par l'hôpital Necker, justement, référence nationale en pédiatrie, qui parle d'un très 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 beau projet. Alors si vous pensez la même chose, n'hésitez pas à les soutenir sur www.leshotelsolidaires.fr.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
On fait le point sur le ciel de demain avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, des pluies vont affecter la moitié ouest du pays, de l'océan à la Normandie au centre et au golfe du Lion, avec des pluies faibles dans la partie nord, mais beaucoup plus fortes sur le relief Cévenol, avec de la neige sur les Pyrénées. Le tout poussé par un vent très fort de secteur est à sud-est entre le Massif central, les Pyrénées, la Corse et les côtes méditerranéennes. Et la mer sera très forte de la Provence au golfe du Lion et dans les bouches de Bonifacio. Sur la moitié est du pays, maintien d'un temps sec et de plus en plus ensoleillé en allant vers les frontières, dans des températures proches des gelées la nuit sur la Lorraine et l'Alsace, mais beaucoup plus élevées ailleurs. L'après-midi, malgré une baisse des maximales sur la partie ouest et surtout dans le quart sud-ouest, avec 14 par exemple à Bordeaux, 13 à Toulouse, 12 à Biarritz, soit 8 à 10 degrés de moins qu'aujourd'hui. Dans l'ensemble, sur les autres régions, les valeurs vont rester confortables pour l'époque de l'année.
Merci beaucoup Jean-Michel Golinski.